Voici Bernard Drainville.
Mon cher Bernard, bon matin.
Salut.
Hey, avant qu'on commence ta chronique, tu me permets-tu une question?
Ben oui, toujours, mon gars.
Parce qu'on apprend ce matin dans le quotidien que ton ancien collègue Stéphane Bédard a été appelé en soutien par la mairesse de Saguenay, José Néron, pour des conseils. Et comme il ne sera pas un employé du cabinet, ben ça ne sera pas finalement un salarié. Ça vaut combien un conseil politique?
Ben, ça dépend du trouble dans lequel elle se trouve.
C'est une bonne réponse. Mais...
Si elle est vraiment dans le gros trouble, ça peut valoir cher.
Ah ouais?
Ben oui.
Parce que ce que je comprends, c'est que ça va être à la pièce, mais honnêtement, j'ai aucune idée combien peut valoir le conseil d'un ex-ministre.
Ben, d'après moi, il va facturer selon le nombre d'heures qu'il va lui prodiguer comme conseil. C'est un avocat, Stéphane. Fait que j'imagine qu'il va facturer à l'heure. Les avocats facturent des honoraires, Ben, ça dépend. Il y en a qui facturent plus cher que d'autres parce qu'ils valent plus cher sur le marché. Stéphane Bédard, c'est un homme qui connaît très, très, très bien les rouages de la politique. Et donc, il peut être de bons conseils.
Ah, mais moi, je critique pas le choix. C'est juste que je me demandais, parce que, ça arrive quand même régulièrement que des anciens politiciens donnent des conseils comme ça à d'autres politiciens, puis ils le font comme ça avec un échange de bons procédés? Ou...
Ah, ça, je ne saurais te dire. Il y a beaucoup d'anciens politiciens qui se retrouvent après ça dans les firmes de relations publiques qui font, entre autres, du conseil, qui font des relations gouvernementales. Ça, il y en a quand même pas mal qui se recyclent dans ce domaine-là. Je connais pas la situation politique de la mairesse. Mm-hmm. Est-ce que, à ton avis, elle a besoin d'un conseiller politique externe, mettons?
Je te dirais qu'en matière de communication, effectivement, elle en a besoin. Elle a fait plusieurs erreurs en communication. Est-ce que c'est un ancien politicien que ça lui prend? Ça, je sais pas, mais je sais qu'elle est quand même assez proche de M. Bédard, fait que c'est quand même pas étonnant comme relation, mais je trouvais ça quand même spécial. T'sais, je comprends qu'ils l'auront pas comme employé à temps plein, puis ça, c'est normal, là, probablement que... Stéphane, il est bien chez Gauthier Bédard, puis il fait une percée dans les médias aussi, etc.
Il doit avoir une bonne pratique. Ouais, c'est ça.
Est-ce qu'il avait besoin de devenir un employé du cabinet? Non, mais d'offrir ses conseils comme ça, ça me titillait l'esprit de savoir comment ça pouvait valoir.
Moi, je te dirais, ce que je surveillerais, c'est à partir du moment où il entre en lien comme ça avec la municipalité, avec la ville, après ça, il faut se garder d'utiliser les liens qu'il aura tissés, les liens plus étroits qu'il aura tissés comme conseiller pour pas que ça vienne créer un problème de conflit d'intérêts dans sa pratique à lui par la suite. Tu comprends?
Effectivement, ça, il va falloir...
Ça, je pense que... Mais il est conscient de ça. Là.
Ah,
tu sais, nous autres, c'est... Stéphane Bédard, c'est un des principaux artisans du code d'éthique des journalistes. Un code d'éthique des députés à l'Assemblée nationale.
Le fameux projet de loi 1.
Alors, il est... Puis il a fait le projet de loi 1 en plus, effectivement, sur l'octroi des contrats. Là. C'est lui qui a parrainé le projet de loi qui fait que, dorénavant, avant de pouvoir soumissionner pour des contrats publics, il faut qu'une entreprise obtienne l'autorisation puis la certification de l'autorité des marchés financiers, l'AMF. Je pense que maintenant, cette procédure-là a été transférée à l'autorité des marchés publics. Mais bref, dorénavant, les entreprises qui soumissionnent pour des contrats publics doivent montrer patte blanche, doivent pas avoir de casier. Il y a une enquête de l'UPAC qui est faite. Puis ça, c'est Bédard qui a fait ça. Fait qu'il a fait voter ça. Fait que il est très conscient des considérations, pas juste légales, mais éthiques dans la vie politique. Fait que je pense qu'il va être prudent, là.
OK. Ouais. Parlons du congrès de la Coalition Avenir Québec qui avait lieu en fin de semaine. Coudonc, c'était-tu le Parti vert ou c'était la CAQ qui était en congrès en fin de semaine?
Ben, sais-tu quoi? Moi, je pense qu'ils ont trouvé le bon équilibre. Parce que quand tu écoutes les écologistes, là, en général, là, ce qu'ils te promettent, là, c'est beaucoup de souffrance, de douleur, de taxes pour changer nos comportements. Tu sais, c'est jamais ben trippant, le programme des écolos, là.
Non, c'est jamais
assez. En général, ben, je dis pas juste que c'est jamais assez, mais c'est beaucoup de renoncement, puis c'est beaucoup de sacrifices, puis tu sais. Alors qu'en fin de semaine, la CAQ, qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit, écoutez, il y a moyen de faire notre part pour l'environnement tout en faisant de l'argent, tout en s'enrichissant. En fait, ils arriment leur plan climatique. Comment je te dirais ça? ils font de leur plan climatique un plan de développement économique.
Mm-hmm.
Parce qu'ils disent, d'abord la pierre angulaire de tout leur programme de la fin de semaine, c'est l'hydroélectricité. Ils disent, regarde bien, si on va faire le plein, puis on achète de l'essence actuellement, on pompe l'argent dans les coffres des pétrolières. C'est de l'argent qu'on envoie à l'extérieur du Québec dans des compagnies étrangères. Si on remplace cette énergie-là par une énergie propre, parce qu'on a davantage de voitures électriques ou de voitures hybrides, ben c'est de l'argent qu'on garde chez nous, parce que l'hydroélectricité, qu'est-ce que tu veux, on se l'achète à nous-mêmes, fait que c'est des profits qui restent chez nous plutôt que d'être pompés à l'extérieur. Fait que ça, c'est une source d'enrichissement, puis évidemment, ça diminue les gaz à effet de serre. Après ça, ils disent, quand on décide d'acheter davantage d'autobus électriques ou hybrides, quand on décide de développer notre système de transport collectif, ben encore une fois, on diminue les gaz à effet de serre, puis il y a moyen de s'enrichir si le matériel est construit dans nos usines. Si les autobus, puis les trains, puis les tramways qu'on achète sont construits chez nous, ça va créer des jobs chez nous. Puis après ça, ils disent, si on exporte à l'étranger, par exemple, à la ville de New York ou au Massachusetts, on exporte notre hydroélectricité, ben eux autres, ça leur permet de fermer des centrales au gaz, des centrales au mazout, même des centrales nucléaires. Fait que là aussi, on aide la planète en s'enrichissant. Mm-hmm. Fait qu'ils ont réussi. Alors, tout ça doit mener, nous a dit Legault en fin de semaine, à une diminution de notre consommation de pétrole de 40% d'ici 11 ans, d'ici 2030.
Ouais.
C'est un méchant contrat, ça, mon Martinus, là.
Ben, pas juste ça. Moi, je regardais ce qu'il proposait en fin de semaine, puis la question que je me pose, c'est toujours la même. J'ai eu l'occasion d'essayer une voiture électrique pendant une semaine de temps. Je chauffe personnellement encore au mazout à la maison. Moi, ma question, c'est du jour au lendemain, si j'ai un véhicule électrique et que je chauffe électrique, est-ce que notre monopole va être capable de me garantir un service hors pair ou je vais manquer de courant ou durant l'hiver, ils vont me dire de ne pas me déplacer ou ils vont me dire de ne pas chauffer?
Martin, regarde bien là. Si tu décides de faire la conversion, d'abord, la première question que tu dois te poser, c'est si je fais la conversion, combien ça me coûte?
Ben, il y a ça.
Tu sais, combien ça me coûte? Mais là, je t'annonce, là, surveille-les bien, là. Ils vont annoncer un nouveau fonds vert, là, un fonds vert remanié, là, d'ici la fin juin, là.
OK. Puis là-dedans, je vais avoir de l'argent, là?
Dieu sait qu'on en a besoin. Mais d'après moi, ils vont commencer à mettre de l'argent disponible pour, justement, faire la transition, faire la conversion vers des systèmes électriques. Est-ce qu'ils vont commencer par des particuliers comme toi? Je suis pas sûr. Mais dans ce que Legault a dit en fin de semaine, il dit il y a des écoles qui chauffent encore à l'huile, là, qui chauffent au mazout. Et les autres, on va changer ça. D'après moi, les écoles vont avoir le droit d'aller puiser dans le fonds vert pour financer ça.
Ouais, Bernard,
éventuellement, les entreprises, il y en a beaucoup qui chauffent au mazout, qui se climatisent au mazout. D'après moi, tu vas avoir des fonds disponibles. Puis peut-être qu'éventuellement, des particuliers pourront y avoir accès.
Ils n'ont pas le choix, Bernard, parce que l'effet pervers de ça, c'est que moi, mettons, qui est au mazout, je vais attendre qu'ils m'offrent de quoi, là.
Ben, c'est clair.
Je ne ferai pas de changement, parce que là, voyant les entreprises qui sont capables de se faire subventionner ça, moi, le CAV, je n'irai pas payer le plein prix, là.
Bien, d'une part, puis là, je t'amène à la question que tu posais, celle de la stabilité de l'approvisionnement. Tu comprends bien que Legault, là, ce qu'il veut, lui, là, c'est pas juste diminuer les gaz à effet de serre avec l'hydroélectricité puis augmenter l'argent qu'on fait avec ça, là, les profits qu'on génère avec notre hydro. Mais ce qu'il veut, c'est que les surplus d'hydroélectricité que nous avons présentement soient utilisés le plus rapidement possible pour qu'ils puissent lancer de nouvelles constructions de barrages.
Il veut des barrages, hein, ça l'obsède, c'est ça qu'il veut.
Ben, Puis, je vais te dire, je suis pas sûr qu'ils vont être construits au Québec les prochains, parce que le plus beau projet qu'il y a présentement disponible, là, c'est dans le Labrador-Terre-Neuvienne.
Mm-hmm.
Ça s'appelle Gull Island. Gull comme goéland, là.
Mm-hmm.
Et puis, c'est un projet extraordinaire. Je pense que c'est 2500 mégawatts, Gull Island. Et puis, écoute, c'est un projet faramineux. L'affaire, c'est que les Terre-Neuviens sont plus capables de le développer parce qu'ils sont trop endettés pour finir celui qui n'est pas encore fini, d'ailleurs, le Muskrat Falls. Fait que ça se peut que le prochain grand barrage va être développé, ça se peut qu'il le soit conjointement entre Terre-Neuve et le Québec, que ce soit un projet commun, puis j'imagine qu'on aurait une partie de nos travailleurs qui iraient à ce moment-là travailler sur le chantier. Il y aurait quelque chose de négocié, nos firmes de génie. Bon, une partie de cette énergie-là pourrait éventuellement servir à, à te chauffer mon Martinus, tu comprends?
Ouais.
Pour justement pour ceux et celles comme toi qui pourraient éventuellement être intéressés à passer de l'huile, comme on le dit communément, là, le mazout, à l'électricité. Mais tout ce que tu poses comme question, c'est une excellente question.
Mais on n'aura pas le choix de s'y poser.
L'autre affaire, non, mais c'est maintenant qu'il faut y poser. L'autre affaire, pis ça, je vais explorer ça, là. Mais à un moment donné, il dit dans son discours, il dit on va favoriser l'efficacité énergétique, ça va permettre aux Québécois de s'enrichir. Moi, je vais te dire, j'ai une idée qui me trotte dans la tête depuis plusieurs années.
Mm-hmm.
Puis d'ailleurs, soit dit en passant, j'ouvre une petite parenthèse. Le plan que Legault a déposé en fin de semaine, là.
Oui.
Mettons que j'en avais déposé un pas mal pareil avec Sylvain Gaudreau au temps de la course au leadership.
Et pourtant, je suis convaincu que Gaudreau va me dire que c'est passé à matin.
Ça se peut. Ça se peut. Mais écoute bien ce que je te dis. Mon directeur de campagne, dans le temps, il s'appelait Stéphane Gobeil.
Mm-hmm.
Mon directeur de campagne au leadership, c'était Stéphane Gobeil. Et c'est maintenant le rédacteur de François Legault.
OK.
Alors, je te dis, moi, on avait déjà travaillé là-dessus lors de la campagne au leadership avec Gaudreau. On avait déjà travaillé là-dessus sur un plan de transition du pétrole vers des énergies vertes, vers l'électricité pour sortir le Québec du pétrole. Et je pense que certaines des idées qui sont restées dans la tête de notre ami Gobeil.
Et ça aurait fait du chemin dans la tête à Legault.
C'est très bien, ça. Moi, j'ai pas de problème. Une bonne idée, il faut qu'elle se promène. Puis si plus de gens l'adoptent, meilleur c'est. Parce qu'à ce moment-là, on se rapproche de sa réalisation.
Mm-hmm.
Mais là où j'allais t'amener, c'était sur l'efficacité. Moi, une de mes vieilles idées, c'est de dire aux Québécois qu'Hydro-Québec donne un incitatif aux Québécois, de leur dire économisez l'énergie. Puis nous autres, ça va nous faire plus de courant à vendre éventuellement aux Américains. Tu sais, mettons qu'on se retrouve dans une situation où on signe une entente avec New York puis on signe une entente avec le Massachusetts pour exporter une bonne partie de nos surplus d'énergie. Ça se peut qu'à un moment donné, ça serait vraiment extraordinaire, là. Mettons que l'Ontario cognerait à notre porte puis disait, finalement, là, nos centrales nucléaires, là, on va pas toutes les retaper. Avez-vous du courant pour nous autres? Ça se pourrait qu'à un moment donné, Hydro dise, ouais, là, nos surplus sont pas mal tous épuisés. Il nous manque un peu d'énergie. Qu'il lance un appel aux Québécois de rentrer fort dans l'efficacité énergétique, mm-hmm. mais qu'ils disent aux Québécois, l'énergie que vous économisez, que vous réussissez à ne pas consommer en faisant le
lavage à 2h30 du matin?
Genre, je sais bien qu'on fait pas ça, là, mais tu sais, changer un peu nos habitudes pour économiser de l'énergie, mm-hmm. pour que Hydro-Québec l'aille en réserve pour le vendre, et qu'Hydro-Québec nous dise, si vous faites des efforts pour économiser chez vous, on va vous retourner une partie des profits de l'argent qu'on a fait en vendant l'énergie que vous avez économisée. Tu me suis-tu?
Oui. Il y a de quoi d'intéressant, là.
Ben, c'est écoute, tu dis aux gens, OK, on va vous demander un effort pour que vous consommiez moins d'énergie. Cette énergie-là, on va la vendre, mettons, aux Ontariens. Ben, une partie du profit qu'on va générer en la vendant aux Ontariens, on va vous la retourner. Vous autres qui avez fait des efforts.
Fait que ça va vous coûter moins cher.
En faisant sécher votre brassée de linge pendant la nuit, ça se peut. Là, tu vas coucher à 11 heures, tu mets le piton, puis tu sais, ça. Bon. Alors, tu sais, je trouverais ça intéressant. Pis ça fait plusieurs années que j'en ai déjà parlé avec plein de monde. Puis à un moment donné, je m'étais dit, on pourrait la faire nous-mêmes. Bon, ben. Enfin, bref, je te dis juste que ça pourrait être très, très, très intéressant parce que là, tu aurais une contribution à l'environnement, tu aurais un gain économique pour Hydro. Puis tu aurais un gain pour le citoyen, pour le contribuable, pour le propriétaire de maison, là, tu sais.
En terminant, Bernard, les premières fissures apparaissent dans le solage de la CAQ entre différents députés. Qu'est-ce qui s'est passé rapidement?
En différents ministres. C'est qu'est-ce qui s'est passé? Il y a quelques semaines de ça, Ottawa a accepté que le Québec joue un rôle plus grand dans la nomination des juges à la Cour suprême, la nomination des juges québécois à la Cour suprême. Il y a une entente qui a été signée entre les deux. Et là, ce qu'on a appris en fin de semaine, c'est que Martine Biron puis Antoine Robitaille, deux journalistes de deux médias différents, nous ont dit que la ministre de la Justice, Sonia Lebel, puis le ministre de l'Immigration, Simon-Jolin Barrette, ont eu une bonne passe d'armes. Ils se sont crêpés le chignon sur cette entente-là. Parce que Simon-Jolin Barrette trouvait pas que ça allait assez loin. Il trouvait que, tu sais, parce que lui, il a déjà déposé un projet de loi dans le temps qui aurait fait en sorte que les trois juges québécois sur la Cour suprême du Canada serait nommé par le gouvernement du Québec, serait nommé par l'Assemblée nationale. Puis l'entente qui a été signée par sa collègue va pas aussi loin que ça. Et là, ils se sont crêpés le chignon à l'interne, et j'ai appris qu'ils se sont tellement crêpés le chignon que Simon Jolin-Barrette a fait changer l'entente qu'elle soit signée. Oui, oui. De telle façon à ce que l'entente ne s'applique qu'à la nomination d'un seul juge, le prochain, qui va démissionner là, parce qu'il y a des crises de panique. Tu as vu ça passer, le juge Clément Gascon? Bon. Oui. Alors, il a fait changer l'entente pour que si une nouvelle entente était négociée, à ce moment-là, l'entente signée pour le juge Gascon, dans le fond, tomberait.
Fait qu'il faudrait renégocier.
Oui, exactement. Mais tout ça pour te dire que, tu sais, dans une équipe ministérielle, t'as des ministres qui sont très souvent des têtes fortes, mm-hmm. et t'as des batailles à l'interne qui se mènent. Des fois, t'es gagnes, des fois, t'es perds. Et ce que je te dis, c'est que cette bataille-là, entre Jolin Barrette d'un côté puis Sonia Lebel, la ministre de la Justice, de l'autre, c'est la première fois là, qu'on entend dire publiquement que deux ministres de la CAQ se sont pris aux cheveux. Et Jolin Barrette a fini par gagner une partie de sa bataille parce qu'il a réussi à faire changer l'entente. Mais c'est normal, ça. C'est normal que des ministres, à un moment donné, soient d'accord puis qu'ils mènent le bataille. C'est juste, comment dire, moins normal qu'on finisse par le savoir. Habituellement, c'est le genre d'affaires que tu veux pas qu'ils sortent publiquement parce que ça affaiblit. Ça a le potentiel d'affaiblir les ministres.
C'est parce que les médias font du spin après ça. Est-ce qu'il y en a un qui veut devenir le prochain chef de la CAQ? Est-ce qu'il est en train de se positionner?
C'est ça. Dans ce cas-ci, Jolin Barrette, on sait qu'il aurait voulu être ministre de la Justice à la place de Sonia Lebel. Fait que ça ramène ça dans les médias, c'est certain. Puis Mme Lebel, elle s'en va devant le caucus des députés de la CAQ avec le mode de scrutin, le nouveau mode de scrutin qu'elle propose, là, qui va faire perdre à certains députés de la CAQ le comté. Fait que là, elle veut pas que ce genre d'histoire-là sorte parce que ça risque d'affaiblir sa position face au caucus. Tu comprends?
Ouais. Hey, avant de se laisser, Bernard, avec qui tu te chicanais, toi, dans le conseil?
Pourquoi tu veux savoir ça?
Parce que j'aime ça, ces affaires-là. Avec
moi, je vais te dire, la politique, là, c'est des batailles. Tu sais, on dit souvent, la vie est un combat, là.
Ouais.
Ben, la vie politique est un combat.
Tu me réponds en politique.
D'une intensité encore plus grande. Non, je te dirais, ça dépend des dossiers. T'as des dossiers où tu te chamailles avec certains collègues, puis t'as d'autres collègues qui sont tes alliés. Puis tu changes de question. Puis là, c'est les députés qui étaient contre toi ou les ministres qui étaient contre toi sont avec toi, puis les ministres qui étaient avec toi sont contre toi. Ça dépend des dossiers. Sur la laïcité, je révèle rien parce que c'est sorti plus tard, mais vous êtes au courant que il y avait des députés, en fait des ministres au Conseil des ministres qui auraient voulu, par exemple, que je donne une clause de droit à qui? Bon. Ben, finalement, on n'avait pas de clause de droit à qui, quoique on aurait peut-être été ouvert à en donner une plus tard, au moment où on aurait négocié avec la CAQ. Là, tu sais, c'était encore une possibilité. Mais ça dépend des dossiers. Tu as des dossiers, là. Tu sais, par exemple, moi, quand j'ai fait voter la loi sur le financement des partis pour limiter à 100$ les dons, tu as des ministres qui n'étaient pas d'accord avec ça, qui trouvaient que c'était trop bas, 100$. Je les nommerai pas, là, mais il y en a qui trouvaient que c'était...
Ça parle fort, raisonnable. Des fois.
Ben oui. Non, puis des fois, tu as de l'hommerie. C'est pas toujours au nom des principes. Des fois, il y a un petit peu de jalousie. Des fois, tu essaies de...
D'intérêt personnel, d'avancement.
Ben oui. Des fois, t'as pas intérêt à ce que ton collègue paraisse trop bien.
Je te crois pas. Oui. Ça arrive, ça?
Ça arrive.
Bernard, merci beaucoup.
Passe une belle journée et une bonne semaine.
Toi aussi, on s'en parle jeudi.
Bye.
Bye. Bernard Drainville pour la chronique politique. Au retour de la pause, on s'entretient avec deux ex-Olympiens.
Le show du matin. Pour nous joindre via messagerie texte et téléphone 543 51 31 Kick 95 7 Saguenay.